ce best-seller japonais qui défend le communisme décroissant. Dans Marx in the Anthropocene, version anglophone élargie d'un ouvrage qui s'est vendu à 500 000 d'exemplaires au Japon, Kōei Saitō propose une relecture stimulante de l'évolution de la pensée de Marx pour défendre un dépassement décroissant du capitalisme. Oh, let's go! Et vous savez que ça, c'est un truc qui m'étonne de ouf. Genre, pourquoi Todo-san, justement, Emmanuel Todd, il se retrouve à être le plus lu au Japon? Genre, je trouve ça trop précis qu'il soit ultra mis en avant au Japon. Et du coup, là, sachez que Todo-san va faire des émissions au Japon et développe ces idées-là, quoi. Bon courage, Dark Litter, repose-toi bien. Ah, et bon courage avec madame ou monsieur, je ne sais pas. À l'automne 2022, de nombreux médias se sont fait l'écho, ou tes enfants du reste, se sont fait l'écho en Europe et aux États-Unis d'un phénomène qui semblait surprenant. Au Japon, un livre inspiration marxiste est devenu un best-seller. Ito Shinsei no Chihoron, désolé, Le capital dans l'anthropocène, publié en 2020, s'est vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires au pays du soleil levant. Son auteur, l'universitaire marxologue Kōei Saitō, est devenu une vedette distribuant des interviews dans les grands médias nippons. Oh, incroyable! En vrai, ça me donne presque envie de le lire, le bouquin. Aya Todo-san dessus, désu. Le phénomène a fasciné en Occident, où l'on oublie souvent qu'il existe une tradition marxiste ancienne, féconde et très vivace au Japon, notamment dans les universités. Kōei Saitō s'y inscrit et travaille depuis plusieurs années sur la question de l'écologie dans l'œuvre de Karl Marx. Un de ses ouvrages a d'ailleurs été traduit en français en 2017 aux éditions Sileps, La nature contre le capital. Ah, mais je crois que ça c'est... Mais il me semble que Rhizomatique me l'avait fourni ça, je crois. Il me semble. L'ouvrage à succès nippon n'a pas été traduit, mais depuis février 2023, une version que l'auteur juge lui-même plus rigoureuse et universitaire est paru en anglais aux presses universitaires de Cambridge sous le titre « Marx in the Anthropocene – Towards the Ideas of Degrowth Communism ». Communism. Marx dans l'Anthropocène vers l'idée d'un communisme décroissant. Let's go! Et oui, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Le communisme, c'est bien, mais le communisme sans productivisme, c'est mieux. Oh, je suis le pire. Vraiment, les pires slogans. Mais voilà, gardez ça en tête, parce que du coup, on peut penser au communisme de Staline, par exemple, qui était ultra productivisme. Même on peut penser voilà au kolkhoz aussi, l'agriculture du coup URSS, qui était ultra productiviste puis qui a fait des énormes dégâts notamment liés à ça, avec aussi un début de révolution verte. Kōei Saitō y développe une lecture de corpus marxiste qui vise à lui redonner une actualité nouvelle et où les questions de l'émancipation des travailleurs et de la lutte contre la crise écologique vont de pair. Alors attendez, là où je me pose une question, est-ce que Kōei Saitō, il est dans la revue Période? Ça pourrait être intéressant de le lire en vrai. Alors du coup, Revue Période, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revue marxiste, et ils font, je crois, de la traduction, et il y a Andreas Malm. Est-ce qu'il y a Kōei Saitō? Non, il n'y a pas Kōei Saitō, c'est dommage. Peut-être il arrivera bientôt dans le média. Certes, l'idée d'un Marx sensible aux questions écologiques n'est pas réellement nouvelle. Plusieurs penseurs l'ont déjà développé au sein d'un courant éco-socialiste, notamment au début des années 2000, John Bellamy Foster, ou en France, Daniel Tunaro. Donc ça, on avait déjà lu des articles sur Marx et l'écologie, c'est disponible sur la chaîne, vous tapez Marx et vous avez plein d'articles qui parlent de ça. Si Kōei Saitō s'appuie partiellement sur ses travaux, notamment pour combattre des lectures strictement productivistes de Marx, il entend également aller plus loin en s'appuyant sur un travail autour des dernières parutions de l'édition complète en allemand des œuvres de Marx et d'Engels. Ah oui, d'accord, il a vraiment pris l'option Big Mac, quoi. Ah merde, attendez, mon truc est en train de se casser la gueule. Tant pis. Dans les carnets de notes des 15 dernières années de sa vie, entre 1968 et 1883, l'intérêt de Marx se concentre sur la question de la science naturelle et sur les sociétés non capitalistes. La lecture qu'en fait Kōei Saitō est alors se produit chez les penseurs de trêve une coupure épistémologique. Option pack complet, oui, c'est ça. Salut à toi, Riboy. Rastafari, vibration ou bien quoi? Tiens, je te mets la musique pour si tu veux voir c'était quoi la musique. Hop. Tu peux aller checker le dernier son qui a été joué en live. Marx et l'écologie. Pour Saitō, le Marx qui publie Le Capital en 1867 est déjà très conscient des impasses écologiques du capitalisme. Il le théorise autour de la notion de fissure métabolique, metabolic rift, mis en évidence notamment par John Bellamy Foster. Ouais, alors ça, c'est très important. En vrai, Marx, dès le début, alors oui, c'est que quelques petits éléments dans son livre, mais c'est important de le rappeler. Marx développe clairement cette idée de, en gros, de côté très organique, que bah, la nature et les ouvriers sont un ensemble, sont là de manière organique, et en fait, si on force sur les ressources, l'ouvrier et, en fait, l'ouvrier et la nature vont subir. Et ça, il en a conscience dès le début de son bouquin, enfin, dans le premier ouvrage de Marx. La relation entre homme et la nature est conçue comme un métabolisme, c'est-à-dire un ensemble de relations réciproques permettant un développement harmonieux. Voilà ça. Et ça, mine de rien, c'est ultra important parce que du coup, il intègre l'homme au sein de l'écosystème. Il dit clairement que bah voilà, l'homme fait partie d'un ensemble commun dont l'air, la terre le permet de vivre. Et du coup, si on abîme l'un ou l'autre, il y en a un des deux qui va basculer, quoi. Mais lorsque la production de valeur et son accumulation infinie devient centrale, les nécessités naturelles sont niées. Les ressources naturelles, l'espace et le temps sont soumis aux intérêts unilatéraux du capital et de sa valorisation. Le métabolisme se fissure et cette fissure devient irréparable dans le capitalisme. Voilà, ça c'est hyper important. Et on peut penser à un des cas emblématiques, c'est le chlordécone. Le chlordécone dans les Antilles, une pollution du coup de 600 ans dans les sols pour produire des bananes et qui détruit la population, les sols, l'eau. Et qui a juste permis d'enrichir les capitalistes. Donc, et notamment dans ce cas-là, les béquets qui sont des descendants de colons et de maîtres esclavagistes. Certes, le capital tente bien de contrer cette fissure par des innovations technologiques, mais elles ne font que déplacer le phénomène. C'est le déplacement métabolique, metabolic shift. Par exemple, les engrais permettent de contourner l'épuisement des sols, mais ils ouvrent de nouvelles difficultés métaboliques par la production de dioxyde de carbone, la pollution des eaux ou la destruction de populations d'insectes. Ouais, en gros, engrais et pesticides, parce que oui, et ça, clairement, il a raison, et surtout, ça artificialise les sols, et du coup, les sols ne fonctionnent plus. Et ça, c'est ce que dit Fukuoka dans La Révolution d'un sol brin de paille. Fukuoka, il dit clairement que, en gros, lui, dans un verger, il dit, bah, moi, je ne touche à rien dans mon verger. Parce que quand on commence à jouer avec l'environnement, et ben en fait, on doit être toujours présent pour modifier l'environnement, et du coup, on devient dépendant de celui-ci. Et en fait, l'environnement, si on arrête notre présence, ben il se détruit. Et lui, il parle des vergers avec des clémentines, je crois. Il parle d'un verger de clémentines, où en gros, il explique que lui, il taille aucun de ses arbres, il fait juste que cueillir les clémentines, ce qui paraît débile, tu vois, mais dans un système capitaliste. Mais en fait, lui, il arrive, et ben quand il fait sa cueillette de verger, il cueille sa clémentine, il la mange, et en fait, il a une des meilleures clémentines du Japon. Enfin, de la région du Japon, parce qu'ils s'occupent de rien. Alors que tous ses collègues qui coupent les arbres, ben en fait, ils doivent couper à chaque début de saison, ils doivent couper tous les arbres, etc. Enfin bref, ça devient un rituel qui est très chronophage. Et lui, il est en mode, bah non, flemme, moi j'ai pas envie de bosser. Enfin, en mode, j'ai pas envie de faire du travail inutile. La nature fait très bien son taf, enfin, l'environnement fait très bien son taf. J'ai pas besoin de m'insérer là-dedans. Voilà, je fais rien, je cueille, mais j'ai juste à cueillir. Et en gros, lui, son seul travail, c'est de cueillir les clémentines. Donc c'est Fukuoka, j'ai plus le nom du gars, mais le prénom du gars, mais c'est Fukuoka dans le livre La Révolution d'un seul brin de paille. Ce constat était déjà réalisé par Marx dans les années 60, conduit à la conclusion que, comme il le note dans le livre 3 du Capital, la vraie barrière à la production capitaliste est le capitalisme lui-même. Dès lors, il semble évident que c'est bien le dépassement de ce mode de production qui, seul, est capable de gérer cette fissure. Voilà, moi j'avoue, j'ai pas lu le livre 3, j'ai juste lu le livre 1. Fukuoka. Ouais, ça. Ah, pardon, Fukuoka, pardon. Pour ceux qui veulent, j'ai des prises de notes si ça vous intéresse. J'avais pris des prises de notes justement sur le bouquin, ce qui était très très bien. Et si vous voulez un peu lire vite fait le bouquin, enfin, les quelques passages du bouquin, vous pouvez les checker dans le. Et du coup, c'est Masanobu Fukuoka. Reste à savoir comment, et c'est ici que le dernier Marx entre. Comme selon Koe Saito, donc le dernier Marx, les derniers écrits de Marx, en conflit avec le Marx d'avant 1868, mais aussi avec son compagnon de toujours, Frédéric Engels, qui, rappelons-le, est aussi le compilateur à partir des notes de Marx des deux derniers livres du Capital. La critique d'Engels est classique dans le marxisme occidental depuis les années 1920. Engels avait dans l'Anti du Ring et dans, enfin non, j'ai pas le bon accent, Anti d'une Ring et dans La Dialectique de la Nature, développé l'idée que le matérialisme dialectique s'imposait également dans l'ordre naturel. En conséquence, la construction du socialisme passe, pour lui, par la conscience des lois de la nature permettant à l'homme de devenir le seigneur réel et conscient de la nature. Ah, c'est intéressant ça. Engels, il est plus sur un rapport de force. Il existe des documentaires filmés de Fukuoka qui traînent sur YouTube notamment. Ouais, je les ai pas encore matés, mais oui, je pense pas les faire en live parce que c'est en VOSTFR. Enfin, du coup, c'est traduit quoi. Je crois que c'est même pas en VF. Mais ouais, je les avais vus et faut que je les mate. Hein. Mais il est très intéressé, très très basé, hein, Fukuoka. Si la vision d'Engels a été caricaturée et déformée par le soviétisme, la réaction du marxisme occidental a été de rejeter le marxisme hors du champ de la nature pour limiter au seul champ social. La pensée de Marx se limitait alors à la société et jamais à la sphère naturelle. A l'inverse, l'écosocialisme de Foster, notamment, a défendu à nouveau l'unité de la pensée de Marx et Engels dans le champ naturel. Ah, hyper intéressant. C'est mon mentor, let's go, incroyable. Kohei Saito prend alors un chemin différent. Il rejette l'idée que la pensée de Marx est uniquement sociale, ce qui le rendrait impropre à traiter de la question écologique. Mais il défend aussi l'idée d'une rupture avec Engels sur ces questions en s'appuyant notamment sur le choix et les réécritures des cahiers de notes de Marx par Engels dans sa rédaction des deux derniers livres du Capital. Oh, c'est hyper intéressant ça. Mais je te comprends en vrai, Alastor, moi vraiment, le bouquin La Révolution d'un seul brin de paille, il m'a matrixé, hein. Je crois que j'ai lu genre en deux jours, je l'ai dévoré le bouquin, et c'est vraiment une puissance, enfin le bouquin il est d'une puissance, c'est incroyable. Vraiment pour ceux qui s'intéressent un peu aux questions d'agriculture, lisez ce bouquin là, je pense que c'est un des must-have à lire. Il est tellement intéressant, il est tellement basé et il est vraiment libérateur, tu vois. Il est vraiment libérateur, donc je vous conseille de foncer là-dedans. Pareil, c'est ma bible. Bah en vrai de vrai, je pense que si je pars en maraîchage dans le futur, je me baserai sur la méthode de Fukuoka, ouais. Parce que bah flemme de bosser en fait, flemme de me casser le dos, go faire le moins de boulot possible, tu vois. Mais oui, je pense que je me baserai sur à peu près la même idée. Au-delà de l'écosocialisme. Cette divergence prend sa source dans la conception de la nature et de la société. Engels voit dans la nature une entité indépendante des hommes et des relations humaines, gouvernée par sa propre dialectique. L'enjeu pour les hommes est alors de maîtriser et de contrôler cette force extérieure. C'est dans ce cadre que se construit l'écosocialisme. Et en vrai, attendez, je corrige. En vrai, c'est pas flemme de bosser, parce qu'en vrai de vrai, il travaille. C'est juste que flemme de mettre de la force dans des choses inutiles. C'est plutôt ça la vraie critique du bouquin. Je ne vais pas commencer à déformer les bondirs de Fukuoka. Il touche du doigt le bon sens paysan, exactement. Ce dualisme cartésien, qui reprend la division stricte entre âme et corps de Descartes, s'oppose à un mouvement actuel de monisme, notamment représenté par Bruno Latour, décédé en 2022, qui considère qu'il est impossible de distinguer le nature et le social à l'âge de l'Anthropocène, tant les deux notions sont imbriquées. Cette vision peut aussi conduire à une logique de contrôle de la nature et des forces sociales. Après, moi, je vous avoue, je suis clairement dans la logique, je suis d'accord avec ça, moi, je suis vraiment dans la logique de Descola. La nature n'existe pas, tout est culture. Comme ça, le débat est plié. Il dit lui-même que celui qui s'attend à ne pas travailler se met le doigt dans l'œil, justement. Oui, voilà, c'est ça, elle sort. C'est pour ça que je préfère corriger tout de suite, parce que sinon, on va dire, ouais, t'as pas compris son livre. Oui. Parce que c'est ça que je dis, c'est du travail d'observation, c'est du travail de... Voilà, le travail est juste différent, quoi. Et oui, t'as raison. Bien vu de corriger. La vision du dernier Marx est à la fois intermédiaire et plus complexe. Selon Saito, Marx s'inscrit dans une forme de dualisme non cartésien. Pour lui, la nature a bien une forme d'autonomie en tant qu'elle préexiste aux sociétés humaines. Si l'on parle aujourd'hui de phénomène irréversible de la crise écologique, c'est bien qu'il existe une logique naturelle que la société ne peut maîtriser. Oui, en gros, l'environnement, quoi. Le monisme est donc impossible, mais, pour autant, il est impossible de nier que la nature n'existe pour l'homme que dans un contexte social et que ce contexte lui-même modifie la nature. Autrement dit, qu'il existe une influence décisive du social sur la nature. Partout, la nature est modifiée et redessinée par la société. Oui, clairement d'accord avec cette posture-là. Mais si tu ne coupes pas ton arbre, il te faudra une grande échelle pour cueillir tes fruits et c'est dangereux et fatigant. Pas forcément, parce qu'en gros c'est des arbres qui poussent en pas en hauteur mais en largeur en fait. C'est un cas précis après, hein. c'est un cas très, très précis, mais pas forcément. Mais après, bref, on lit l'article, on va pas commencer à parler de verger. Et en vrai de vrai, je connais pas assez le verger pour pouvoir étaler mon manque de savoir sur le sujet. D'où cette idée que, pour le dernier Marx, il existe une dialectique entre deux formes de métabolisme. le social et le naturel. La nature et la société se modifient et s'influencent mutuellement. Marx a cherché à saisir la transformation sociale et physique de la relation entre humain et nature à partir des perspectives historiques, économiques et écologiques. Résume Koe Saito. Mais en vrai, Dave, j'ai pas fait gaffe, mais je crois qu'il disait bien que ça poussait en largeur, mais j'ai plus trop l'information. Mais en vrai, va checker le livre, hein, je pense que ça t'intéresserait, ou va checker une vidéo YouTube du mec. Hein. C'est précisément cette vision qu'a en partie gommée Engels dans sa rédaction du dernier livre du Capital, mais que l'on retrouve dans les notes de Marx. Ah ok, tain, c'est ultra précis ça. Que Engels, il a gommé les parties de Marx et que du coup, ça se retrouve... En fait, il faut vraiment relire les notes de Marx, quoi. Koe Saito développe cette idée par une lecture originale, mais passionnante de l'œuvre du marxisme hongrois Georgi Lukács, longtemps considéré comme le père du marxisme occidental, mais que l'auteur japonais revoit comme un de ceux ayant eu l'intuition de la vision du dernier Marx. Bon, là c'est vraiment un article très gros cerveau marxiste, mais c'est hyper intéressant de voir ça sur Mediapart par contre. La relation entre nature et société devient alors une identité de l'identité et de la non-identité. Pour reprendre les termes de Hegel, nature et société n'existent nulle part séparément, mais cette identité est une hybridation dynamique entre ce que se mélange et ce qui résiste au mélange. Oui, en gros, on est d'accord, c'est la nature n'existe pas, quoi. Dans cette relation entre société et nature, il existe toutefois une asymétrie. La nature peut exister sans le social, mais pas l'inverse. C'est ici que prend forme la crise écologique issue du capitalisme. Ouais, ça c'est vrai, c'est intéressant. En mode, l'environnement peut vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut vivre sans l'environnement. Dans ce système, la loi de la valeur ne peut se développer sans un support physique et naturel. Et pourtant, sa vocation est celle de l'accumulation infinie. Elle entre donc inévitablement en conflit avec ce support. C'est alors que les tensions entre l'identité et la non-identité menacent la totalité du système. Cette crise est d'autant plus profonde qu'elle est renforcée par l'élasticité du capital. Cette notion représente la réponse que les défenseurs de la croissance verte apportent aux partisans de la décroissance. Le capital s'adapte et utilise les technologies pour réduire sa consommation. C'est ce phénomène de metabolic shift, donc le déplacement métabolique, déjà évoqué, qui en réalité accroît la crise car elle approfondit la tension entre identité et non-identité en insistant sur cette dernière. Et on peut parler, voilà, on peut penser aussi aux effets rebonds, par exemple. Les effets rebonds font partie de ça aussi. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois. Oui, le localisme est quelque chose qui est important de développer, qui permettrait de se sortir de la logique capitaliste. Par contre, gardant en tête que le capitalisme peut très bien réussir à s'immiscer dans le localisme. Donc on n'est pas, voilà, le capitalisme est très très fort, il se modifie et il arrive à s'insérer dans des branches qu'on ne pourrait presque ne pas supposer. Donc vraiment, attention à ça. Tant que la logique de l'accumulation du capital est aliénée de la vie humaine et de la soutenabilité de l'écosystème, le système capitaliste pourrait continuer à exister même si toutes les limites planétaires sont dépassées et que des parties entières de la Terre deviendront impropres à la civilisation. En vrai, il a tellement raison. C'est là où tu vois que c'est pour ça que ouais, Lordon, il a raison. L'écologie ne peut se faire sans la destruction du capitalisme. C'est impossible. On est obligé de passer par une destruction du capitalisme pour pouvoir faire de l'écologie. La coupure épistémologique du dernier Marx. Cette vision implique alors une modification substantielle de la vision de marxiste. Avant 1867, Marx considérait que le capitalisme, par son développement unique de forces productives, représentait une forme de passage obligé de l'humanité pour parvenir au socialisme. Ce dernier représentait alors une reprise en main des technologies et des forces productives du capitalisme avec un nouveau but. C'est ici l'idée qu'a reprise Engels et qui est aussi au cœur de la réflexion éco-socialiste. Ok, ça c'est intéressant, faut que je note. Et c'est tellement le projet. Mais oui, ça crode, ça fait vraiment bader. Hein. C'est que le projet, c'est capitalisme vert, philanthrocapitalisme, croissance verte, etc. Mais pour Saito, la vision des liens entre nature et société que Marx a développée dans ces dernières années et que l'on a décrite plus haut change la donne. Si le développement capitaliste crée nécessairement une crise écologique à laquelle le capitalisme ne peut répondre que par une fuite en avant, le développement des forces productives capitalistes n'est plus un fait positif, mais un danger qu'il faut stopper. Oui, il a raison, il faut absolument stopper le productivisme, l'extractivisme. Marx en est arrivé à prendre conscience que le développement des technologies ne, pré- par pas nécessairement la fondation matérielle du post-capitalisme, résume Koei Saito. Mais en vrai, et ça, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça répond même à la critique d'un peu les PCF mentaux qui disent oui, on fait d'abord la révolution et après on s'occupe, et après d'office, le racisme et le patriarcat et le sexisme vont disparaître. Mais MDR, en fait, genre, ouvrez vos yeux, je vous en supplie. Dès lors, les sociétés non capitalistes, et notamment les communes rurales de l'Inde ou de la Russie de son temps, représentent des sources d'inspiration pour l'après-capitaliste. C'est dans ce contexte qu'il faudrait comprendre la célèbre lettre de Marx à Vera Zasulich en 1881, dans lequel il considère que la Russie pourrait passer outre la phase capitaliste pour parvenir au socialisme en s'appuyant sur les communes rurales. Oui, il a tellement raison! Murray Bookchin, le localisme, le communisme libertaire, let's go! Le communalisme libertaire, le Rojava kurde, incroyable! Au fait, si tu veux une petite ferme collective qui fait plaisir à voir, j'en ai découvert une proche de mon terrain. Ils sont passés à la télé au reportage La Tournerie de Coissac Bonneval. Vas-y, let's go, hein. Merci beaucoup à la store. De toute façon, ce genre de documentaire m'intéresse. Le prochain React, on fera ça. On fera trois différents formes d'agriculture dans la Drôme. En vrai, tu peux m'envoyer le lien si possible ou pas? Donc, prochain live, on fera un truc comme ça. Ma grand-mère avait un cerisier qu'elle avait jamais taillé, et le truc faisait facile, c'est 10 mètres de haut, et les cerises du bas juste des cerises du bas jusqu'en haut, toute la famille se régalait avec juste un arbre. En vrai, moi, l'anodin, moi pareil, mes grands-parents avaient des cerisiers, des mirabelliers et compagnie, enfin des prunes et compagnie. Et en fait, même mon père, il disait, nous on prend le bas, et les oiseaux, ils prennent le haut. Mon père, il disait ça à chaque fois, c'est pareil, tu sais, il disait, comme disait Dave, tu peux te blesser avec l'échafaudage et compagnie. Mais en fait, bah, tu prends le bas de l'arbre, t'en as largement assez, et tout le haut, bah, tu le laisses aux oiseaux, aux insectes. Comme ça, bah, on partage les ressources. Merci à la store, tu gères.
Souvent, c'était en fin de
Ah, mais
soirée.
oui, bah oui, je les connais beaucoup à la store. Oui, enfin, je les connais beaucoup. On a déjà parlé beaucoup de ces gens-là. On a déjà évoqué. Bah, merci, je sais pas ce qu'ils deviennent. Je sais pas c'est quoi la suite de cette ferme-là. Mais oui, incroyable cette ferme-là. 11 dans une ferme, ils ont même des vacances et tout. Dinguerie. Merci beaucoup pour le partage. Du coup, on continue. C'est ici l'originalité du livre de Koei Saito. Pour lui, le dernier Marx est allé au-delà de l'écosocialisme et sa vision peut être définie de façon plus adéquate comme un communisme décroissant. Concrètement, si le développement des forces productives capitalistes est destructeur, le communisme doit en passer par le renoncement à une partie de ses forces productives. D'où l'idée centrale de décroissance. Oh là là, let's go. Alors je vais même te corriger, l'anodin qui dit... Oui, c'est clair, laisser sa part à la nature. Mais justement, je pense qu'il faut plus trop. Enfin, je sais pas si le terme nature est très intéressant. Moi, je dirais plutôt, faut laisser la part aux vivants, aux autres vivants. C'est tu sais, tout le rapport à la philosophie du vivant, tu vois. Parce que ça reste des organismes vivants. J'y suis passé les voir, c'est toujours up. Ils ont même un brasseur et ils font soirée une fois par semaine. Ok, trop cool la store, trop cool. Bah, tu vois, c'est bien parce que je me posais la question, qu'est-ce qu'il devenait. Donc, bah, trop cool. Merci pour ton retour. Ça fait plaisir. Pour autant, la vision de Marx, insiste Saito, n'est ni réactionnaire ni relativiste. Elle n'idéalise pas les communes rurales et les sociétés non capitalistes. Elle en fait simplement des exemples utiles d'organisation où la logique identité entre identité et non-identité est respectée. Dans le mouvement historique de dépassement du capitalisme, ce sont donc des expériences utiles. La dernière partie du livre dresse alors des traits de ce communisme décroissant. Mais wesh, mais il a tellement raison! Mais incroyable, il est tellement basé, Koe Saito. Le point sur lequel insiste principalement Koe Saito est celui de l'abondance et de la richesse. La décroissance est souvent fustigée comme une perte de richesse et un retour au monde de la rareté précapitaliste. Or, ce qui précède permet de contredire cet argument avec vigueur. Let's go! Retrouver notre place dans le vivant, merci toi. Ouais, c'est vraiment ça, retrouver notre place dans le vivant. Ouais. Compétition et coopération en alternance d'opportunisme, je ne trouve pas ça déconnant. Ouais, de ouf. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, bien animal qu'insecte, même végétal. Ouais, c'est pour ça que moi j'aime pas trop le terme nature, parce que tu vois, encore une fois, nature c'est entre guillemets, on s'extrait de ça. Mais non, c'est le vivant, on fait partie du vivant, on est un ensemble commun, et du coup, bah juste on partage. Et en fait, pourquoi je dis vivant aussi, enfin, comment dire, il y a une construction à ça. Je dis vivant par rapport à ce bouquin-là, le livre de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, où justement il dit, Il faut arrêter de penser le monde de manière coloniale. Il faut arrêter d'habiter le monde de manière coloniale. Il faut faire un monde décolonial. Il faut vivre le monde décolonial. Et justement, dire en gros, je prends une partie de l'arbre et je laisse l'autre au vivant, bah, c'est justement de dire, bah voilà, j'arrête de m'accaparer toutes les ressources. Je partage au vivant les ressources. Moi, je prends ma part et le laisse. Il est aux autres. Et en fait, bah, ces ressources-là vont se retrouver dans le sol, vont se retrouver dans des endroits. Et en fait, finalement, on se retrouvera quoi qu'il arrive, quoi. Moi, j'aime parler de néganthropie grâce à Bernard Stiegler. Ouais, alors je maîtrise pas Stiegler, je le connais pas assez. Du coup, j'aime bien moi la pensée de Malcolm Ferdinand, une écologie décoloniale, où il parle justement de l'habité coloniale et du coup l'antagonisme l'habité décoloniale. Et moi, je suis vraiment sur cette idée d'habité décoloniale, quoi. Non mais t'inquiète, je me doute Léonin que vivant ça résume aussi le ce que tu veux dire par nature. Mais t'inquiète, c'est moi qui fais un peu le casse-couille de dire ça exprès pour qu'aussi que vous compreniez toute ma logique philosophique derrière, quoi. Que je veux vraiment essayer au maximum de sortir de ce terme-là exprès. Hein. Je veux pas te faire chier toi précisément, mais c'est vraiment exprès, je veux sortir de ça en disant vivant, environnement, tu vois. Pour dire en gros, bah la nature, c'est le vivant et l'environnement, et du coup, ces deux choses-là, bah, elles sont présentes et tu peux pas juste l'enfermer dans le terme nature parce qu'on fait partie de ça. Bref. Vous connaissez ma pensée, hein. Je vais pas aller plus loin. Hop, on finit l'article. Figure du communisme décroissant. L'auteur part de ce qu'il appelle le vrai commencement du capital avec les premiers mots de l'ouvrage de Marx. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste apparaît comme une gigantesque accumulation de marchandises. Pour lui, cette phrase souligne la tension entre la notion de richesse et son apparence capitaliste, la marchandise. La richesse des sociétés est, pour Marx, avant même sa coupure épistémologique, différente de cette accumulation de marchandises. C'est une richesse de culture, de savoir-faire, de temps libre et de connaissances. Oui, oh là 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 là, let's go! Incroyable, putain mais... Vas-y, en vrai, Koe Saito, je veux vraiment lire ce mec, il a l'air d'être tellement basé. Et dans ce cadre, le capitalisme apparaît par sa focalisation unique sur la marchandise comme un appauvrissement de la richesse sociale. Or, insiste Koe Saito, cet appauvrissement social est aussi un appauvrissement naturel puisque la nature n'est conçue que comme le porteur matériel de la valeur. Son traitement est donc réduit à ce seul usage, conduisant à des destructions et à une uniformité. Oui, putain, oui, je vous en parle à chaque fois, l'uniformisation dans nos assiettes des végétaux, le fait qu'on ait passé de 6500 légumes à 200 dans nos étals, c'est ultra important. Dès lors, la notion de rareté doit être réinterprétée à l'aune de cette notion. C'est lorsque la richesse publique disponible pour tous est laissée à l'usage commun, disparaît pour laisser place à une richesse privée centrée sur la marchandise qu'apparaît la rareté. Donc là, on peut penser aux méga-bassines avec le combat des méga-bassines, par exemple. La notion d'abondance ou de rareté est donc une notion sociale. Elle correspond à des usages et à une mode de relation entre la société et la nature. Plus le développement des forces productives capitalistes se déploie, plus cette rareté sociale augmente. Voilà, exactement. Bah, hyper intéressant l'article. Ce paradoxe dessine un premier trait du communisme décroissant. Une société qui dépasse la rareté pourrait être fondée sur la reconstruction de l'abondance des communs que l'on retrouve dans des sociétés pré-capitalistes à un niveau plus élevé, par la transcendance de la rareté artificielle, explique Koe Saito. Oui, let's go les communs! Oh, putain, je suis trop heureux. C'est vraiment l'article qui condense toute ma pensée. C'est une dinguerie, c'est une immense dinguerie. En d'autres termes, la société post-capitaliste, en gérant les ressources naturelles comme un bien commun, pourrait dépasser la notion de rareté, car l'abondance n'est pas un niveau technologique, mais une relation sociale. Oui, putain, le partage! Oh là là, il me convainc. Je vais tout souligner, je m'en bats les couilles, je suis trop content. Un point est ici à préciser. Koe Saito insiste sur la persistance de la rareté naturelle comme une constitutive de cette société. C'est un élément central de son propos qui le distingue des communismes du luxe. Prométhéen envisageant une société réutilisant les technologies capitalistes existantes. Ah ok, donc lui il est vraiment radicalement décroissant. Pour lui, ce type de projet, en niant la non-identité de la nature et de la société, se retrouvera inévitablement face aux mêmes limites que le capitalisme. Alors, moi je nuancerais dans le sens où, avec ce qu'on a déjà extrait, je pense qu'il y a moyen d'avoir une forme de luxe déjà présent. Donc je renuancerais quand même sa vision. En mode, on a quand même déjà extrait tellement de ressources que je pense qu'on peut quand même construire un truc globalement luxueux grâce aux ressources qu'on a déjà. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que enfin, je viserai vers ça. Le point de départ du communisme décroissant est qu'il est décroissant. Autrement dit, il doit fonder l'organisation sociale sur la reconnaissance de la non-identité entre nature et société pour préserver le métabolisme global entre ces deux éléments. C'est dans cette contrainte externe qu'il faut abolir la rareté sociale. Ok, donc ça c'est une définition, il faut que je la regarde. Ce qui doit être dépassé dans une société post-capitaliste, ce n'est pas la rareté en tant que telle, mais les conditions objectives de la rareté sociale spécifique à l'accumulation du capital, insiste Saito. Ok, donc ça c'est ce qu'il disait plus loin à peu près. Puisque cette rareté sociale est liée à la privatisation de la production, son abolition passe par la mise en place d'une production coopérative où les ressources naturelles sont contrôlées en commun dans l'intérêt de la société présente et des générations futures. Contre la logique de marchandisation du capital, le communisme recherche la communification de la richesse. Oui, donc ça, clairement d'accord avec lui. On l'a vu par exemple dans les Pays Basques, je crois, il y a des rigoles pour irriguer les champs qui sont mises en commun et du coup, bah, chacun est au courant de l'eau qui est utilisée et chacun en fait, comment dire, prend de l'eau en respectant en fait l'eau aux autres agriculteurs. On peut penser voilà au combat des mégabassines pour justement arrêter s'accaparer les terres. On peut penser à quoi d'autre? En bref, on peut penser à bah si le contrôle aussi voilà les ressources mises en commun. On peut penser aux graines, les semences paysannes. Les semences paysannes, en fait, avant c'était du troc, beaucoup de troc qui se faisait avec du coup les paysans et en fait on fournissait les graines. Genre quand le paysan il avait un champ qui tombait malade ou je ne sais quoi, bah, on filait d'autres graines et compagnie. Et tout cet échange de graines a fait qu'il y avait des semences qui étaient très résistantes, très productives et qu'on se partageait sans appliquer un échange commercial derrière. Quand Marx dit que les hommes peuvent organiser leur interaction avec l'environnement de manière consciente, il signifie qu'ils peuvent consciemment réfléchir sur leurs besoins sociaux et les limiter si nécessaire, ajoute l'universitaire japonais. Marx avait développé la notion de coordination sous le capitalisme. En isolant les travailleurs de leurs produits, le capitalisme a renforcé la nécessité de la coordination. Mais cette coordination se fait par l'intermédiaire de la loi de la valeur centrée sur le travail abstrait. Elle est insaisissable par les travailleurs. Koe Saito estime que le communisme décroissant remplace cette coordination inconsciente par une coordination consciente, par une planification et une régulation qui empêchent la croissance infinie et réduit la production des branches qui portent une consommation extravagante. Donc ça, bah, c'est ce que Mélenchon il dit, hein, la planification écologique. Hein. Mon petit frère, il fait un service civique dans les semences anciennes. Oh, incroyable, MD, trop cool. Ah bah j'espère que ça va lui plaire. Hein. Parce que ça, en vrai, les semences anciennes, les semences paysannes, c'est un vrai savoir local. D'une valeur inestimable, vraiment, c'est une valeur inestimable, et ça, il faut absolument le mettre en avant, le développer. Et du coup, bah, j'espère que ça va lui plaire, et j'espère qu'il va réussir à, bah, ouais, à soit partir là-dedans, ou en tout cas que ça va lui faire plaisir, quoi. Apparemment, c'est cool, bah, trop cool, je suis trop content pour lui. La richesse est produite selon les capacités de la nature et des travailleurs et redistribuée selon les besoins, retrouvant le fameux mot de Marx dans sa critique du programme de Gotha. Cela peut supposer la croissance ponctuelle de certaines branches, mais la question n'est plus là. Le besoin d'accumulation infinie de marchandises a disparu et le travail peut être réorganisé pour réduire le temps de travail et laisser ainsi du temps libre aux travailleurs. Et là où je suis d'accord avec cette critique-là, c'est de dire en gros, en fait, on planifie les trucs en mode, ok, bah pendant 6 mois, 1 an, on fait une production en grande quantité d'un produit nécessaire parce qu'on en a besoin. Et une fois que le produit est fait, on arrête les usines, on change les lignes de production. Et on fait, si possible, la réparation, mais on arrête de produire ce nouvel objet-là. Parce qu'on n'en aura plus besoin. Quasiment tout le monde en aura besoin. C'est un produit qui ne sera plus disponible pour tous. Donc on arrête de le produire. On arrête de faire des produits qui ne sont inutiles. Et on fait du coup une autre ligne de production pour répondre à un autre besoin. Car c'est bien le fond du propos de l'auteur. La conscience de la place de la société par rapport à la nature induit une nouvelle organisation qui permet de construire une liberté authentique. L'ouvrage de Koe Saito est des plus riches. Ses discussions sur Engels, Rosa Luxembourg ou Georgi Lukács sont très stimulantes, de même que sa lecture du dernier Marx. Alors que la pensée critique des années 60-70 avait insisté sur le jeune Marx encore très hégélien, celle des années 2010-2020 redécouvre le Marx dans la maturité et cela produit des relectures hautement intéressantes. Oh, quelle dinguerie! Mais wesh! Ah, j'ai trop envie de lire ce bouquin, j'ai trop envie de le lire. Je vais le mettre direct dans la playlist. Certainement, l'idée d'une coupure épistémologique risque-t-elle de faire débat dans la mesure où et Kohei Saito lui-même le reconnaît implicitement, la pensée de Marx évolue progressivement en conservant des éléments clés des pensées précédentes. Par ailleurs, l'image du communisme décroissant n'est pas, en dehors de ses fondements théoriques, fortement originale. Celui-ci rejoint ainsi partiellement certaines pensées de la décroissance ou de Frédéric Lordon de « Figure du communisme », par exemple. Je ne l'ai pas encore lu, « Figure du communisme », faut que je le lise. Ah, mais voilà, mais j'ai encore, putain, j'ai encore 15 bouquins à lire, j'en peux plus. J'en peux plus. Le fondement théorique n'est cependant pas anecdotique. Il permet d'en finir avec le mythe technologique et prométhéen qui amène de nombreux marxistes à vouloir trop souvent sauvegarder, au nom du développement des forces productives, le capitalisme existant.
C'est honteux.
Mais oui, c'est honteux, il y a trop de bouquins, il y a trop de pages. En fait, c'est même pas des bouquins, il y a trop de pages à lire. Parce que là, je me suis mis un bouquin dans ma playlist, enfin dans ma liste de lecture. Le bouquin, il fait 1200 pages. Genre, c'est bon, j'ai lu l'Antiodipe et les 1000 plateaux, ça suffit, les livres de 1200 pages. Ils permettent de répondre au réflexe anti-marxiste de l'écologie politique et donc de l'amener à se positionner sur la société future. Il ouvre enfin la voie d'un rapprochement avec des pensées de la décroissance qui, de leur côté, rechignent trop souvent à reconnaître leur caractère intrinsèquement incompatible avec le capitalisme. Bref, Kohei Saito n'a pas usurpé son succès de librairie au Japon. Son travail ouvre des perspectives nécessaires et fécondes et méritera d'être au centre des débats sur le dépassement de la crise écologique. Un article de Romaric Godin. Eh, désolé, mais l'article, c'est une masterclass. Article master putain de classe. Et je vais lire Kohei Saito de ce pas. Enfin, pas de ce pas, mais en vrai, prochain bouquin, je pense que je lis du Kohei Saito. Hein. Ou en tout cas, on va essayer de trouver un article de ce gars-là. Hein. Il est turbo-basé. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était une très belle découverte. Merci beaucoup à Rhizomatic de m'avoir fourni de m'avoir montré l'article, parce que vraiment... Article incroyable.